L'armée ukrainienne a lancé une vaste et massive attaque de drones contre la Russie. Des frappes en série qui touchent aussi bien des infrastructures pétrolières que des sites logistiques et militaires. Ces attaques ont été permises par l'ouverture d'un corridor, un couloir de frappe qui a mis à mal le système de défense anti-aérienne de la Russie. En prenant le contrôle du ciel, l'Ukraine a-t-elle durablement affaibli son ennemi russe? Et faut-il y voir un point de bascule dans ce conflit qui dure depuis 4 ans? Dans la deuxième partie de ce podcast, je poserai la question à Julia Friedrich, chercheuse spécialiste des questions de sécurité entre la Russie et l'Ukraine au Global Public Policy Institute, un centre de recherche basé à Berlin. Je suis Céline Hussonnois-Alaïa, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM, bienvenue. L'Ukraine frappe fort. Kiev a lancé fin juin sa plus vaste offensive depuis le début de la guerre il y a 4 ans. Infrastructures pétrolières, sites logistiques et industriels militaires, des centaines de drones sont envoyés sur toute la Russie. Les aéroports russes ont même été contraints de fermer mardi. L'opération s'appelle 40 jours d'offensive pour faire plier le Kremlin. L'objectif, asphyxier l'économie russe et mettre un terme à la guerre. Les frappes sont spectaculaires, comme lorsque l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, qui se trouve à Moscou, a été touchée mi-juin. Les images montrent un immense panache de fumée noire s'élever au-dessus de la raffinerie en flammes. D'autant que ce n'est pas n'importe quel site qui est touché. Cette raffinerie représente plus d'un tiers du carburant consommé dans la capitale russe et permet notamment d'approvisionner l'armée engagée en Ukraine. C'est l'aboutissement de la stratégie militaire de Kiev. Multiplier les attaques de drones de plus en plus loin sur le sol russe. Des frappes qui touchent désormais la Russie en profondeur, bien au-delà de la ligne de front. Ces attaques sont jugées entièrement justifiées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Nous sommes pleinement fondés à répondre en visant l'industrie pétrolière russe, sa production militaire et ceux qui sont directement responsables des crimes de guerre commis contre l'Ukraine et les Ukrainiens.
Si ces frappes sont possibles, c'est parce qu'un corridor a été ouvert. Concrètement, l'armée ukrainienne a ouvert un chemin en détruisant les radars russes qui détectent les drones et protègent son ciel. Un couloir de frappe dans le système de défense anti-aérienne russe. Fini le temps de la guerre asymétrique qui voyait le président ukrainien faire la tournée des capitales européennes pour demander armes et argent. Le recours massif aux drones, de plus en plus sophistiqué et notamment développé par des entreprises ukrainiennes, est devenu l'atout de l'armée de Volodymyr Zelensky. Le résultat, c'est que le rapport de force a changé, pointe le vice-amiral Michel Olagaray, ancien directeur du Centre des hautes études militaires sur BFM.
Il y a un changement de paradigme extraordinaire avec l'utilisation de ces drones qui non seulement changent la guerre sur le terrain, sur la ligne de front, puisque quand même, c'est parce que la ligne de front tient, comme vous l'avez souligné, que les Ukrainiens peuvent faire la guerre ailleurs. Mais pas simplement sur la ligne de front, sur la profondeur, sur le politique et sur la richesse nationale.
Le président ukrainien aurait-il gagné la bataille du ciel? C'est du moins un point de bascule, analyse sur BFM le général Philippe Sidos, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL, la force des Nations Unies au Liban.
Puis les Russes, pour l'observer, ils ont des lacunes. Il y a quand même d'énormes trous dans la raquette de la surveillance de l'espace aérien russe. Et donc là, de faire, effectivement, et ça correspond à cette campagne de 40 jours annoncée par le président Zelensky, de frapper tous ces sites. Ils en ont frappé dans l'Oural, ils en ont frappé dans la Baltique. Là, Krasnodar, pas très loin de la mer Noire. À Volgograd, l'ancien Stalingrad. Usine d'armement, usine de missiles balistiques russes. Donc il y a toute une gamme, une palette d'objectifs qui sont atteints et qui mettent en échec le système de défense russe.
Et pour le vice-amiral Michel Olagaray, l'avantage est aujourd'hui bel et bien à l'Ukraine.
C'est une armée en guerre depuis 4 ans. Donc c'est la meilleure armée d'Europe. Il n'y a aucun problème en ce moment, aucun. Vous savez, elle a été éprouvée à la guerre. Et ça, dès qu'on parle des matériels, prouvés à la guerre, qui a pu prouver leur efficacité, mais alors, l'efficacité d'une armée, c'est extraordinaire, parce que ça demande à la fois de l'organisation, de la ressource, une capacité de se mobiliser qu'a montré l'Ukraine, qui nous sidère, je crois, à peu près tous encore maintenant.
Vladimir Poutine, le président russe, a lui-même reconnu que son pays traversait un moment compliqué.
Nous traversons une période difficile, une étape éprouvante. Mais cela nous a beaucoup appris. Cela nous a permis de ressentir l'essence même de ce que signifie être citoyen de la Russie.
Ces frappes de drones ne sont pas sans conséquences pour la population russe. Le pays connaît désormais des pénuries de carburant avec des queues devant les stations-service quand celles-ci disposent encore de carburant.
C'est vraiment, vraiment serré. On fait la queue pendant une heure et demie parfois, ça devient ingérable. Vous faites 200 km en dehors de Moscou, on ne vous donne pas plus de 10 litres. À certains endroits, on ne vous en donne même pas du tout.
Ça fait environ 20 minutes qu'on fait la queue pour l'essence. Tout va bien, ils ont du carburant, la file avance bien.
Et quand sont apparues ces files d'attente?
Probablement depuis une semaine environ.
Et les autres stations?
On y est allé, certaines n'ont pas de carburant.
Les pénuries de carburant, le président russe les reconnaît.
Dans le même temps, vous savez parfaitement que des problèmes subsistent, tant pour les automobilistes que pour les entreprises. Et malheureusement, les files d'attente sont toujours présentes dans les stations-service. Le type d'essence nécessaire n'est pas toujours disponible au moment voulu. Et bien sûr, nous comprenons les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs pendant l'été.
C'était l'une des promesses de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre, que l'offensive en Ukraine ne touche pas et ne perturbe pas le quotidien des citoyens russes. Ce n'est plus le cas. La Russie ne semble plus en position de force dans sa guerre contre l'Ukraine. Faut-il craindre une escalade avec le risque de frappe sur un pays de l'OTAN ? C'est ce que craignent les Pays-Bas, qui alertent sur une possible confrontation à long terme avec la Russie et une attaque limitée contre un pays membre de l'OTAN. Le chef d'état-major français des armées a lui aussi évoqué au printemps dernier la possibilité d'une guerre ouverte avec la Russie qui reste sa préoccupation première. Jean de Gliniasti, ancien ambassadeur de France en Russie, ne croit pas à une telle éventualité. Écoutez son analyse sur BFM.
Je pense que la Russie est enlisée en Ukraine, qu'elle a de grosses difficultés, qu'elle est bombardée à l'intérieur des terres, que les Ukrainiens sont en train d'infliger des pertes très graves à la Russie. Et donc, il est possible qu'il y ait une escalade désespérée de la part des Russes, même s'ils n'ont pas perdu sur le terrain, mais que peut-être la tentation d'élargir le conflit. Mais sur le fond, je ne crois pas. Poutine a une sorte de pragmatisme dans sa déraison ukrainienne, parce que le dossier ukrainien est un dossier complètement émotif et irrationnel pour Poutine. Mais dans le passé, il s'était montré assez pragmatique.
D'autant que Kiev n'a pas dit son dernier mot. Le président ukrainien compte encore produire des millions de drones dans les prochains mois.
Nous ne nous arrêterons pas et ils ne s'arrêteront pas non plus. Mieux vaut arrêter cette guerre. Je veux dire, nous ne nous arrêterons pas sur le champ de bataille. Donc c'est pourquoi nous sommes meilleurs que lors des frappes intermédiaires, comme je l'ai dit. Et en longue portée, nous sommes aussi meilleurs. Maintenant, nous allons produire environ 10 millions de drones cette année, mais nous pouvons doubler ce chiffre.
Si la guerre en Ukraine semble prendre un virage, elle n'est pas encore terminée. Quelle porte de sortie choisira Vladimir Poutine ? Les différentes options et leurs éventuelles répercussions sur le reste du monde seront très certainement discutées dans quelques jours lors du prochain sommet de l'OTAN. Bonjour Julia Friedrich.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse et spécialiste des questions de sécurité entre la Russie et l'Ukraine au Global Public Policy Institute, un centre de recherche basé à Berlin. Les frappes de drones ukrainiens contre des raffineries, des dépôts pétroliers sont désormais systématiques, voire quotidiennes. Pourquoi ces cibles sont-elles devenues prioritaires pour Kiev ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est devenu une priorité. Déjà, on se rappelle très bien que pendant l'hiver, la Russie, elle a frappé l'Ukraine dans ces centres industriels et aussi les centres de population de manière très dure. C'est là que l'Ukraine, elle montre qu'elle n'a pas encore perdu la guerre. Au contraire, elle est toujours capable de changer l'équilibre dans sa faveur. Et une deuxième raison, c'est que l'Ukraine, elle vise à détruire ou à interrompre les centres logistiques qui se trouvent derrière la ligne de front et aussi d'affaiblir la base économique de la guerre. Et en troisième moment, je pense que l'Ukraine, elle vise à montrer à la population russe, à perturber le quotidien de la population russe pour montrer que la guerre, elle est en fait, concerne aussi la population russe et non pas seulement, elle ne se passe pas seulement en Ukraine.
Et alors justement, dans quelle mesure ces frappes sur les infrastructures pétrolières russes pourraient profondément pénaliser son économie ?
Alors déjà, on voit que ça pose pas mal de difficultés pour le Kremlin. Le gouvernement russe a dû restricter le montant d'hydrocarbures pour la population. Et du coup, on voit sur les médias sociaux, on voit les files d'attente assez longues, même à Moscou. Du coup, on voit déjà l'effet de ces frappes ukrainiennes.
Ces dernières semaines, l'Ukraine a multiplié les frappes de drones jusqu'à Moscou et en profondeur sur le territoire russe, avec des missiles capables de parcourir plus de 3000 km. Est-ce que c'est un changement d'échelle dans cette guerre ?
Alors, je dirais oui et non. On a vu dans les derniers 4 ans et demi que le dynamique et l'équilibre dans cette guerre, elle a changé de côté. Et je crois dans l'Europe occidentale, on a la tendance à croire que la guerre, elle va continuer de même manière que maintenant, pour toujours. Alors, quand c'est la Russie qui avance, on pense que l'Ukraine va certainement devoir bientôt terminer la guerre. Et là, on pense que c'est l'Ukraine qui a l'initiative, alors ça va continuer comme ça. Mais en effet, je pense que les dernières années, ils ont montré que ça change. Mais oui, c'est sûr qu'en ce moment-là, l'Ukraine, elle est au plus fort que l'on a vu depuis quelques années.
Avec ces frappes de drones, dans quelle mesure l'Ukraine a repris l'initiative dans ce conflit ?
Je dirais que, comme j'ai dit au début, après cet hiver assez horrible pour l'Ukraine et après la dernière année qui ne s'est pas passée en faveur de l'Ukraine sur le champ de bataille, on voit que l'Ukraine a repris l'initiative. Mais c'est aussi clair que, et les officiels ukrainiens ils disent ça aussi, c'est clair que pour maintenir et pour gagner plus d'avantages de cette initiative. Il ne faut pas lâcher maintenant, quoi. Il faut plus soutenir l'Ukraine. Ils ont déjà demandé aussi de plus de l'argent pour exploiter cet avantage que l'Ukraine vient de gagner.
Et justement, depuis le début de la guerre, les drones sont passés d'un rôle d'appui à un rôle central. Est-ce que c'est la principale révolution militaire de ce conflit ?
Jusqu'à maintenant, je dirais oui. Et je crois que c'est aussi important de voir que ce n'est pas une révolution qui s'est passée une fois, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer de manière continuée. Alors, on a vu une extension de la zone d'engagement ou la kill zone, comme ça s'appelle en anglais, déjà avec les drones il y a quelques années, mais là, avec les nouvelles drones que l'Ukraine vient de développer et de produire, on voit que cette zone s'élargit encore plus. Du coup, ce n'est pas une révolution qui se passe une fois et après la guerre, elle a changé, mais au contraire, et c'est ça que l'armée ukrainienne, elle a toujours dit, même du premier jour de cette guerre, c'est une évolution constante. Et du coup, il faut se rendre compte que la guerre, en fait, elle change tout le temps.
Au fond, est-ce que ces attaques de drones montrent que l'Ukraine est en train de gagner du terrain ou plutôt qu'elle a trouvé un moyen de compenser son infériorité sur le front terrestre ?
Je ne pense pas que c'est blanc ou noir, alors ce n'est pas oui ou non. C'est vrai que l'Ukraine, elle a toujours le problème qu'elle a moins de ressources humaines que la Russie. Et on voit que les attaques de drones sur le territoire russe et aussi loin de la frontière, ça a permis à l'Ukraine de gagner un peu de l'avantage de l'initiative. Mais on voit aussi qu'en même temps, l'Ukraine est aussi en train de gagner un peu de terrain sur le champ de bataille. Du coup, je ne pense pas que ce sont deux champs de bataille qui sont différents. Enfin, c'est quand même lié, je dirais.
On l'a dit, l'Ukraine est parvenue à ouvrir un corridor de frappe en détruisant des radars russes. Est-ce qu'il faut y voir un affaiblissement de la Russie Et peut-être peut-on espérer le début de la fin de la guerre?
Je ne pense pas qu'on a vu des signes que Poutine a changé de l'attitude envers l'Ukraine ou envers... du tout, en fait. Et il y a presque un mois que Zelensky, le président ukrainien, il a envoyé une lettre ouverte au président Poutine et en lui donnant une invitation pour se rencontrer les deux face à face. Mais Poutine, il n'a pas du tout répondu à cette invitation. Du coup, je pense que même si les frappes ukrainiennes elles posent des problèmes économiques et aussi militaires à la Russie, et même si ces frappes ont des conséquences importantes en ce qui concerne les attitudes de la population russe, je ne vois pas que Poutine il est en train de changer de position ou de dire qu'il est prêt à négocier en sérieux. On ne voit pas trop de signes d'un tel changement. Malheureusement, je ne pense pas que la fin de la guerre elle est en train de, enfin, qu'elle s'approche.
Du côté de la Russie, on l'évoquait tout à l'heure, la population fait face à des pénuries de carburant. Dans quelle mesure ces pénuries pourraient mettre en difficulté Vladimir Poutine? Et est-ce que finalement la fin de la guerre en Ukraine pourrait se jouer en Russie?
Alors, comme j'ai dit, je crois que c'est la première fois que la population russe a réalisé que, en fait, la guerre que la Russie a commencée en Ukraine a aussi des conséquences pour la Russie même. Il semble que ni les Ukrainiens tués ou bien le nombre de soldats russes qui sont déjà morts ont réussi à faire ça. Du coup, on voit que la population, elle est mécontente, mais d'attendre que la population russe va commencer une révolution contre le président Poutine, là, je crois qu'on va attendre pour très longtemps. Je ne crois pas que la population elle va bientôt commencer à faire une révolution, quoi. Malheureusement.
Et vous disiez que la fin de la guerre, ce n'est pas pour tout de suite, mais on peut quand même y voir un signe positif. Après plusieurs mois marqués par un nombre record de frappes, le nombre de drones longue portée et de missiles russes lancés contre l'Ukraine a nettement baissé au mois de juin. Merci Julia Friedrich d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast et à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer. Et merci à vous d'avoir écouté Le Titre à la Une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.